On s'intéresse à l'actualité politique avec des discussions en cours avant le deuxième tour des législatives. Et cette décision du Conseil d'État, on se penche aussi sur des chiffres liés au nucléaire avant de finir par du sport. Le journal de midi, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence bien sûr ce journal par de la politique.
Oui, et les élections législatives qui ont animé ce week-end et dont la campagne se poursuit jusqu'au vote du deuxième tour, ce 6 juillet. Alors vous le savez, samedi, une seule circonscription a trouvé son député. La première qui couvre Papeete, Pirée, Arouet, les Tuamotu et les Marquises. Le candidat du Amuitatao, Moerani Frebo, a passé d'une dizaine de voix seulement la barre légale de l'élection au premier tour. Il renverse au passage Matei Le Gailly, qui était un peu le symbole de la victoire éclatante du Tavigny en 2022. Reste donc deux circonscriptions et deux duels entre indépendantistes et autonomistes. Et on ne peut pas dire que ce second tour soit joué d'avance, Charles Irénée.
Et oui, Valdemar, malgré l'élection de ce député marquisien, qui a d'ailleurs été le premier élu de la nouvelle législature nationale ce week-end, malgré les cris de joie de samedi soir, la vie en rose qui retentissait au Amuitatao, les autonomistes n'ont pas de quoi crier d'avance victoire pour samedi prochain. Leur union, il est vrai, a glané près de la moitié des voix du pays. Ça pourrait paraître un bon résultat si ces partis n'avaient pas perdu 10 000 voix depuis le premier tour des dernières législatives. À l'époque, pourtant, les candidats du Tapura, du Aere Iapolinetia et du Amui Taira partaient en ordre désordonné, multipliaient même les attaques les uns contre les autres. Cette union, qualifiée d'opportuniste et temporaire par ses adversaires, n'a pas abouti à une addition des suffrages, surtout dans la troisième circonscription, celle qui couvre Faa Punaouia et les Raromatei. Pascal Aitiflos n'arrive qu'en deuxième position, à 400 voix seulement de la députée sortante Mereana Arrêt d'Arbelot, certes, mais avec 5000 voix de moins que les trois candidats rouge, orange et vert de 2022. Dans la deuxième circonscription, Nicole Sanquer est plus confortable, près de 2000 voix d'avance sur Steve Chaillou, qui a tout de même presque doublé son score par rapport aux dernières législatives. À l'échelle du pays, le Tavigny fait 12 000 voix de mieux qu'il y a deux ans, Valdemar.
Bon, alors, dans un camp comme dans l'autre, on compte mettre ces 4 jours de campagne à profit. Les candidats et les lieutenants sont d'ailleurs déjà sur le terrain. Il y a un message prioritaire, c'est aller voter.
Et oui, car avec 43,1% des inscrits qui se sont déplacés samedi, le taux de participation est en légère hausse par rapport à 2022, mais reste très faible, surtout au regard de la grosse mobilisation nationale dans ces élections, 76% dans l'Hexagone. C'est notamment le cas ici au Fénois, dans la deuxième circonscription, celle qui couvre Tahiti entre Paea et Maina, en passant par la Presqu'île ainsi que les Australes. Moins de 39% de participation, ça veut dire d'importantes réserves de voix de part et d'autre. Les deux qualifiés l'ont répété dès samedi soir. Dans la troisième, 57% des électeurs ne se sont pas déplacés. Ça avait été plus les mêmes chiffres il y a deux ans. Et les deux circonscriptions avaient alors connu des bonds de 10 points de la participation entre le premier et le deuxième tour. Une mobilisation principalement en faveur du Tavigny à l'époque, sauf que les indépendantistes profitaient alors du fiou, du Covid et du fiou surtout de la gouvernance Tapura. Cette fois, ce sont eux qui sont au pouvoir et qui peuvent faire face à la défiance de certains électeurs. Moetai Brotherson lui veut y croire. Ce matin, il rappelait sur les réseaux sociaux que le Tavigny était le premier parti du Fénois, si on sépare les scores du Amuitatao en tout cas, et il appelait à la mobilisation de la partie historique, je cite, de l'électorat bleu ciel.
Alors on a bien compris qu'il y avait les abstentionnistes, il y a aussi les reports de voix, et est-ce que les consignes de vote sont déjà claires pour ce deuxième tour ?
Eh bien pas vraiment, Valdemar, mais il y a eu bien sûr l'appel à voter Tavigny de Eyora Les Verts, qui a pesé 4,4% des voix au premier tour, mais ça n'était pas une surprise. Du côté du RN, dont le candidat Toutou Tétouanoui a frisé les 5% dans la deuxième circonscription, on attendait un coup de fil des autonomistes pour se positionner ce matin encore. Éric Minardi espérant qu'une des députées, peut-être Pascal Haïti, se dirige vers le groupe d'extrême droite à l'Assemblée. Quant à Naomi Miura, on vous a parlé de son coup de gueule sur les réseaux sociaux hier. Pas question de soutenir qui que ce soit, même si elle se sent autonomiste. La voie est libre donc pour Mereana Radabolo dans la troisième circonscription.
Voilà, et vous pouvez bien sûr retrouver tous les résultats, toutes les analyses, toutes les réactions sur ces législatives sur notre site radio1.pf. Et puis le débat continue sur les antennes de Radio 1 et de Thierry FM. Rendez-vous demain mardi à 11h30 avec Nicole Sanquer et Steve Chaillou sur la deuxième circonscription. Puis mercredi à la même heure pour le face-à-face entre Mereana Rey d'Arbelot et Pascal Haïtiflos.
On tourne cette page des législatives, mais on reste en politique.
Oui, avec cette décision du Conseil d'État dénoncée par les acteurs économiques, critiquée sur le fond par l'opposition, adoptée dans la cacophonie par la majorité Tavigny, puis annulée par le Conseil d'État, redéposée avant même la décision par le gouvernement, puis revotée par Tarahoy. Je parle bien sûr de la loi fiscale présentée en fin d'année dernière. Elle continue son itinéraire difficile avec une annulation prévisible, mais cette fois partielle par ce Conseil d'État. Les juges parisiens ont annulé l'article 25 de la loi, supprimant les effets rétroactifs. Le gouvernement voulait ainsi gommer les implications administratives et budgétaires de la première annulation. Eh bien, c'est raté. La loi reste en vigueur, mais ses dispositions ne sont applicables qu'à la date de sa publication, soit le 12 avril 2024. L'administration du pays devra donc bien procéder à des remboursements et des redressements de contribuables, et principalement des entreprises. Le total des transferts est estimé à 500 millions de francs. Un casse-tête pour l'administration, comme pour beaucoup d'entreprises. Mais pas de quoi paniquer pour le ministre Teveiti Pomare, qui avait dit à Tahiti Info qu'un nouveau collectif le mois prochain rééquilibrera le budget.
On s'intéresse maintenant aux faits nucléaires avec ces chiffres.
Oui, le comité d'indemnisation des victimes, le CIVEN, a publié ses données de l'année 2023. Alors, en ce qui concerne les demandes d'indemnisation, les données sont en nette augmentation. En 2022, c'était une année déjà marquée par une forte hausse. 240 Polynésiens s'étaient manifestés sur un total de 328 dossiers déposés. Eh bien, en 2023, ils sont 495 résidents du Fénois à avoir déposé un dossier pour un total de 564 nouvelles demandes sur l'année, ce qui fait de 2023 l'année de loin la plus prolifique pour le comité depuis sa création en 2010. Alors comme l'an passé, le plus gros contingent des demandeurs polynésiens provient de la population, devant les travailleurs civils du CEP et enfin les militaires. En ce qui concerne les pathologies signalées, le CIVEN recense une majorité de cancers du sein, du poumon et de la thyroïde. Mais cette hausse des demandes ne se traduit en revanche pas au niveau des indemnités allouées, puisque seuls 48% des dossiers ont été acceptés l'an passé contre 53% en 2022. Dans le détail, 108 Polynésiens, 28 métropolitains et un Algérien ont été reconnu en qualité de victime, ce qui a donc coûté moins cher à l'État, 1,46 milliard d'indemnités en 2023, soit 320 millions de moins sur un an.
Le nucléaire qui était justement l'un des sujets du brevet.
Oui, la question de l'installation du CEMP en Polynésie, les conséquences sanitaires et environnementales des tirs, notamment celle de l'essai Centaure. Voilà les sujets sur lesquels les collégiens ont dû travailler vendredi pour l'épreuve d'histoire géo du brevet. Ils ont notamment dû expliquer un discours du général de Gaulle datant de 1966 et un extrait de texte d'un ouvrage du CEA de 2022. C'est la première fois que le fait nucléaire a pris une telle place au diplôme national du brevet, et ça n'est pas passé inaperçu puisque samedi, certains l'ont relevé lors de la conférence de presse de Mororua et Tatou qui prépare sa marche de demain le 2 juillet.
Et d'ailleurs, Val-de-Marne, la traditionnelle mobilisation sera tournée vers la jeunesse.
Et pas vers les élections. Pour cette commémoration du premier essai nucléaire, si les politiques sont les bienvenus, ils seront interdits de micro, a précisé Mororua et Tatou. C'est d'ailleurs un jeune militant de 29 ans, Tevaerei Puarei, qui préside désormais l'association. Et pas question pour lui de faire du combat contre le nucléaire une manipulation politique.
Nous sommes à la fois étonnés que tous les partis portent ce combat, mais pas aussi étonnés que ça, parce que c'est un sujet qui commence un peu à prendre de l'ampleur. Pour nous, l'association, en tout cas, Mourou et Tato, tant que cette volonté de mettre en avant le fait nucléaire, en tout cas l'histoire nucléaire dans leur combat, c'est une volonté réelle et pas une manipulation. Ben tant mieux, j'ai envie de dire. Qu'il le fasse ou pas, l'association et l'église continuera son combat.
Et à noter que pour la marche de demain, les districts de Tahiti et Mauréa seront répartis en trois cortèges. Ils partiront à 8h de la gare maritime, de la mairie de Papeete et du stade Willy Bambridge pour converger sur l'avenue Pouvana à Aupa, puis au jardin de Paofei, juste en face du siège de l'église.
Une info route maintenant.
Elle concerne la traversière entre Papeno et Mataya qui sera coupée jeudi et vendredi puisque des travaux urgents de réfection de la piste doivent être menés un peu avant le lac Veiria. Une portion située au-dessus du premier barrage menace de s'effondrer. Les dates de chantier pourraient évoluer en cas de mauvaises conditions météo.
On parle course à pied avec une épreuve inédite qui se prépare, Val-de-Marne.
Oui, depuis le début de l'année, la commission running de la Fédération d'athlétisme travaille sur l'organisation d'un Equiden, autrement dit une épreuve marathon qui se court en relais de 5 athlètes. Un format de course jamais proposé aux Fénois, mais qui, selon les initiateurs du projet, devrait permettre de raviver l'intérêt des coureurs pour la course sur route. Écoutez les précisions de Guy Ramon, il est membre de la commission running.
Le Covid a mis une claque à la course à pied telle qu'on l'a pratiquée autrefois, c'est-à-dire tout ce qui était petite course de 5-6 km, tu vois. Ça s'est perdu puisque les gens ont préféré choisir des activités autres que courir, s'entraîner ensemble, donc ils sont partis dans la montagne faire du trail. Donc là, on sent une reprise de l'activité course sur route. Donc on s'est dit, on va faire un Equiden, comme c'est une nouvelle compétition sur le territoire. Et en France, c'est une activité qui marche bien parce que c'est accessible à tout le monde avec des petites distances de 5 et 10 km.
Voilà, des distances accessibles donc avec un format de relais convivial qui veut faire de ce rendez-vous une épreuve fédératrice. Le but étant de réussir à rassembler un millier de coureurs de niveaux différents. Ce serait l'idéal pour la Fédération d'athlétisme qui peut déjà compter sur le soutien de plusieurs gros sponsors. Elle aimerait l'organiser sur le front de mer de Papeete, sur l'ancien parcours de l'épreuve des foulées du front de mer. Mais rien de certain puisque les organisateurs risquent de se heurter aux mêmes difficultés logistiques qui avaient contraint la CEP à abandonner l'organisation des foulées. A noter aussi qu'un half équidène devrait être programmé le même jour, ça se passera entre la fin novembre et début décembre.
Et pour terminer, ce rendez-vous pour les jeunes boxeurs océaniens.
Des Océaniens aux Fénouas depuis plusieurs mois et malgré les nombreux PAPA qui ont agité l'actualité fédérale en boxe, les licenciés de la PBA de Tahuitinena se préparent à disputer un tournoi international. Cette rencontre débute aujourd'hui avec l'arrivée des délégations, elle va durer jusqu'au 7 juillet à la salle de Fatawa. Au programme, des face-à-face entre des combattants de 13 pays parmi lesquels Fidji, les îles Cook, Kiribati, la Nouvelle-Zélande, les Samoa, Tonga, les Samoa américaines, l'Australie, l'Inde ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée et bien sûr la Thaïlande et la Polynésie française. L'objectif de ce rassemblement est de mettre un coup de projecteur sur les boxeurs de la zone et surtout leur permettre de se jauger. On écoute le président de la PBA, Tahuitinena.
L'objectif, c'est que les médailles d'or et les médailles d'argent, donc je suis susceptible de se qualifier pour les championnats du monde, junior cette année. Concernant les cadets, donc ça sera pour l'année prochaine, pour les championnats du monde. Ensuite, il faut savoir que on a également nos Jeux du Pacifique qui auront lieu en 2027. Donc ce sont nos meilleurs juniors, en fait, qui seront également pris. Dans 3 ans, ils seront également seniors. Il va falloir qu'ils battent les anciens pour pouvoir se qualifier. Donc c'est de bon augure également.
Voilà, notez que cette rencontre axée sur les jeunes, donc, fait son retour après 10 ans d'absence au calendrier de l'IBA, la fédération internationale qui l'organise. La dernière fois, la délégation de Tahiti était alors composée de 11 boxeurs, elle avait ramené 10 médailles des Samoa. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le prochain point avec l'actualité locale, c'est bien sûr le flash de 16h.
Merci Valdemar, on passe à la météo sur Radio.